Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
La lecture est-elle vitale pour l'homme ? On était vivement invité à s'en persuader en écoutant en 1967 sur France Culture « Quinzaine de la lecture, quinzaine des lecteurs », une série d'émissions de Luc Decaune, lancée par les mots de Flaubert, qui sonnait là comme un slogan publicitaire « Lisez pour vivre ». À travers l'expérience de personnalités aussi remarquables que Julien Green et Jean Villard, la première émission de la série proposait de comprendre comment on devient lecteur, puisqu'il est admis que savoir lire n'a jamais suffi à faire de quiconque un lecteur. L'apprentissage de la lecture, il en était aussi question dans cette émission. Les auditeurs pouvaient y entendre un éloge de la méthode globale avant d'être transportés dans le cours préparatoire de Monsieur Crucifix à l'école primaire publique de la rue Pelleport dans le 20e arrondissement de Paris.
Quinzaine de la lecture, quinzaine des lecteurs. Lisez pour vivre. Une enquête de Luc Decaune avec la collaboration de Colette Godard et Claudine Balta. Ce soir, première émission, comment on devient lecteur ? Avec la participation de Julien Green, Jean Villard, François Bresson, Louis Legrand, Robert Gloton et du cours préparatoire de la rue Pelleport à Paris.
La lecture. Pour de certains esprits, le seul mot de lecture fait surgir un vaste domaine où pénétrer librement pour des randonnées sans fin. C'est tout ensemble un paysage aux horizons toujours changeants et une demeure close dont chaque pièce visitée est le reposoir d'un secret. Une sorte de monde second, plein de tentations et de pièges, qui double le monde réel et le revêt d'un éclat nouveau, lui donne saveur et sens. À ses lecteurs convaincus, le livre est indispensable. C'est qu'il pratique la lecture comme un art de vivre, un art d'être soi-même. Et comme il n'est d'art sans plaisir, il faut donc que pour eux, lire soit jouissance et charme. Julien Green, vous qui vivez parmi les livres, nous direz-vous en quoi consiste ce plaisir ?
J'ai pratiqué ce que Valérie Larbaud appelle ce vice impuni, la lecture. Ça a toujours été pour moi un plaisir extraordinaire et non seulement une source d'inspiration, que je ne tiens pas du tout à cacher, mais une évasion facile qui me permet d'oublier les soucis de l'heure, quand il y en a, et de me transporter dans un monde souvent extraordinaire. Je dois à la lecture des plaisirs que je n'hésite pas à qualifier d'immenses. Il me semble que je ne pourrais pas vivre sans lire. Le plaisir de lire est pour moi quelque chose d'incomparable. Je n'irai pas jusqu'à dire, comme un écrivain du XVIIIe siècle, qu'il n'y a pas de chagrin au monde qu'une heure de lecture ne puisse effacer. Je trouve que c'est complètement faux. Bien sûr, c'est faux. Mais il est étonnant de penser qu'en ouvrant un livre, on puisse vivre tout à coup dans le monde que l'auteur vous propose. Il est certain que le livre nous présente le monde sous un aspect quelquefois nouveau. Nous regardons autour de nous et nous voyons le monde par les yeux de tel grand romancier ou de tel grand poète. Je suis ailleurs dans un monde imaginaire ou autrement. Ça dépend de ce que je lis. Un roman, par exemple, me transporte dans le monde du romancier. L'histoire, que j'aime beaucoup, est pour moi un intérêt fascinant. Je ne suis pas... Je vis dans le passé, j'aime le passé, et j'y suis. Le fait de m'asseoir dans un coin de ce bureau, près d'une bonne lumière, et d'avoir un livre entre les mains, est pour moi un plaisir presque physique, n'est-ce pas? Tout compte dans cette histoire. Le format, la typographie, toutes les marges, tout entre en jeu. Je tiens à avoir une bonne édition des écrivains que j'aime, n'est-ce pas? Mais c'est un plaisir qui n'est pas sans rapport avec le plaisir d'écouter de la musique, par exemple, ou alors de regarder de la peinture. Je ne compare pas ces plaisirs, qui sont malgré tout d'ordre différent, mais il y a des rapports, en ce sens que la peinture et la musique peuvent nous envoûter, n'est-ce pas, nous enchanter, littéralement. La lecture fait de même. Il y a un ensorcellement dans la lecture. Je subis ce charme, n'est-ce pas, et je m'y livre.
Et pour vous, Jean Villard, qu'est-ce que ce plaisir de lire?
Un plaisir physique. Oh, je ne lis pas dans la rue quand même, que dans le train. Il me faut tout de même un lieu. Ma lecture s'arrête rapidement si physiquement je ne suis pas bien. Je ne dis pas que je lis allongé, que je vais jusque là, mais tout de même, j'aime un coin où, de mon bureau, fût-il extrêmement modeste, ou... Par exemple, aussi en province, une période de vacances, c'est une période où je lis le plus, enfin. C'est-à-dire que les vacances ne se séparent pas d'un plaisir de lire et de beaucoup lire. Et même de se lever tôt le matin pour lire. Et comme de finir la journée en lisant au lit. Ça, c'est une chose que je ne me souviens pas de ne pas avoir terminé ma journée avant d'éteindre ma lumière avec un livre en main. Enfin, l'avant-dernier geste, c'est de poser le livre ou le manuscrit près du lit. Enfin, et le second et dernier geste, c'est d'éteindre la lumière. La période où je lis le plus et où j'ai le plus grand plaisir de lire se mêle avec les vacances. Or là, c'est vraiment se lever tôt, très tôt, un peu après l'aube, ce qui est très tôt en été, c'est-à-dire pas loin de 5 heures du matin, au mois d'août, et avant de travailler, un travail personnel, de lire une bonne heure. Puis au cours de la journée, on cherche un coin à l'ombre, donc où l'on ait un certain plaisir, et qui est presque toujours le même. Il faut que la chaise longue ou la chaise ou le lieu où on s'assoit soit à l'aise. Alors là, je trouve que le corps est entièrement détendu, le corps lui-même a une espèce de plaisir inconscient à être présent, et je crois que la machine intellectuelle à ce moment-là marche bien.
Cet état de bonheur, de grâce, devrait-on dire, qui est celui du lecteur accompli, il n'est pas donné d'y accéder d'un seul coup. Ce n'est que par une succession d'apprentissages et de cheminements que se forme lentement le véritable lecteur, et il y a loin, bien loin, de l'élève annonnant l'alphabet sur les bancs du cours préparatoire, à l'homme maîtrisant son livre. Ils sont presque d'une nature différente. Ainsi, posons la question, comment devient-on lecteur? Et d'abord, qu'est-ce que lire? Pour l'homme ayant reçu quelque instruction, l'acte de lecture est un acte si familier, si quotidien, qu'il lui paraît aller de soi, comme marcher ou respirer. En fait, lorsque nous lisons un texte écrit ou imprimé, nous procédons à une série d'opérations mentales extrêmement complexes par lesquelles nous transformons la masse des signes organisés sur la page ou sur tout autre support en une réalité intelligible et efficace à notre usage. Mais ces opérations sont si rapides et s'enchaînent de façon si automatique que nous n'en avons pas conscience. Nous oublions même de nous émerveiller. Pourtant, si nous voulons vraiment cerner et approfondir la notion de lecture, la première chose à faire serait bien de s'interroger sur la nature et le processus de cette chimie mentale. Nous demanderons à François Bresson, directeur d'études à l'École des hautes études, de nous la décrire succinctement.
L'acte de lecture, nous ne le connaissons surtout qu'à travers l'étude que l'on peut faire de ce que j'appellerais les stratégies du lecteur devant la ligne écrite. Eh bien, le texte écrit se déroule devant les yeux et le lecteur ne perçoit nettement que les quelques lettres sur lesquelles son regard est fixé. Et il va déplacer son regard de point en point, éloignés les uns des autres, et par conséquent, tout se passe comme s'il faisait des échantillons du texte avec lesquels il va essayer de reconstituer le texte qui est devant ses yeux. Autrement dit, ayant pris un échantillon, tout se passe comme s'il faisait une hypothèse sur ce qu'il y a à droite de cet échantillon dans la ligne, et que l'échantillon suivant va confirmer ou infirmer cette hypothèse. S'il l'infirme, c'est que l'hypothèse était fausse, et on va revenir en arrière pour faire une autre hypothèse. Les hypothèses que le lecteur est capable de faire vont dépendre de sa connaissance du langage. Mais cette connaissance du langage peut être de deux niveaux. D'abord, de sa connaissance des liaisons qui existent entre les lettres successives dans sa langue. Liaisons qui nous permettent, par exemple, de remplir des grilles de mots croisés. Des liaisons aussi qui existent entre les mots quant à leur sens. Tout se passe comme si la connaissance que nous avons d'un mot consistait à avoir une liste des mots avec lesquels il puisse se combiner, ou plutôt des classes de mots avec lesquels il peut se combiner. Naturellement, cette connaissance s'acquiert, comme la connaissance du vocabulaire, par l'éducation et la culture. Un enfant ou un analphabète n'aura pas les mêmes capacités de ce point de vue que celui qui lit quotidiennement. Et pour celui qui lit quotidiennement, un texte technique qui n'est pas de son métier lui posera plus de problèmes qu'un texte de journal. Deuxième connaissance qui est nécessaire, c'est la connaissance de la structure de la langue, ce que les linguistes appellent la compétence. Compétence qui apparaît très précocement. Et justement, des études récentes nous montrent que ces stratégies du regard consistent à aller chercher dans les mots suivants les éléments qui probablement, car tout ceci se passe en probabilité, probablement vont nous apporter des renseignements sur les liens syntaxiques entre termes. Autrement dit, la stratégie dépend de la connaissance que le sujet a de la syntaxe et, disons, du lexique, et en même temps de sa capacité de faire des hypothèses, c'est-à-dire que tout se passe comme s'il fabriquait sa propre phrase et qu'il comparait son hypothèse à la phrase qu'a engendrée l'écrivain.
La mise en place de ces mécanismes mentaux constitue la première étape de la formation du lecteur. Apprentissage dont on ne dira jamais assez l'importance. Apprendre à lire est l'acte essentiel, est l'acte premier de toute instruction, de toute éducation, car en même temps qu'il donne accès à l'univers prodigieux des livres, base de notre civilisation, cet apprentissage assure la structuration et la maîtrise du langage. C'est pourquoi tous les enseignements préparatoires lui donnent la première place. C'est pourquoi aussi un mauvais enseignement de la lecture a de si lourdes conséquences pour la scolarité et pour la réussite humaine d'un individu. Louis Legrand, directeur des recherches à l'Institut pédagogique national, nous parle de cet apprentissage.
On peut en gros apprendre à lire soit d'abord par une approche globale des textes, soit par une méthode construite, proprement synthétique, celle que l'on pratiquait autrefois, la seule que l'on pratiquait autrefois, ou alors par une méthode qui emprunte des caractères à l'une ou à l'autre méthode, point de départ global par exemple, et dissociation, analyse et synthèse, ce qu'on appelle une méthode mixte. Mais je précise que ces trois types de méthodes ne sont pas forcément identiques et que des nuances importantes varient selon les démarches propres à chaque maître ou à chaque méthode particulière. Une approche globale de la lecture est recommandé, en particulier avec des enfants jeunes, à 4 ans par exemple, que par la suite, une phase de dissociation, d'analyse et de synthèse apparaît indispensable, en particulier au niveau du cours préparatoire. Mais il n'en reste pas moins vrai que certains maîtres, par exemple, des maîtres apprennent très tôt à lire à des enfants d'âge précoce par une méthode synthétique. C'est une méthode d'un maniement plus facile parce que très construite. On commence par les voyelles et le be-a-ba traditionnel. C'est une méthode fruste, si vous voulez, mais d'un maniement facile. Pour des élèves parvenus à un certain niveau de développement mental et qui sont susceptibles de cette synthèse indispensable entre des signes et des sons.
Vous vous rappelez comment Jacqueline a lu les nouvelles à son grand-père et à sa grand-mère? Vous allez me raconter comment ça s'est passé. Jean-Michel.
Jacqueline a lu sur un journal.
Oui. Et qu'a-t-elle lu sur le journal? Qui avait-il sur le journal? Patrick.
Nous nous trouvons maintenant dans une classe de cours préparatoire, rue Pelleport à Paris, où le maître, Monsieur Crucifix, applique précisément la méthode syllabique traditionnelle.
Son grand-père, il y a dit « Tu lis mieux que moi ».
Alors, c'est un compliment ou c'est un reproche?
Un compliment.
C'est un joli compliment. Et Jacqueline en a éprouvé beaucoup de plaisir. Vous regardez ici, j'écris « du plaisir ». Il y a dans ce mot quelque chose qui n'est pas normal. Je souligne cette lettre. Comment s'appelle cette lettre, Philippe?
S.
S. Elle devrait donner un son. On devrait dire « du plaisir ». Mais elle a changé de son. Vous entendez? On n'entend pas « plaisir », on n'entend pas « ce ». Marc Prigent, on entend un autre
entend
son.
The.
On entend « ze ». Maintenant, il faudrait expliquer pourquoi. Regardez bien ici. C'est très important, ça. Voilà un « ce » qui va faire « ze ». Quelqu'un n'aurait pas une idée de savoir pourquoi?
Parce qu'il y a un « i » derrière.
Ah, voilà, c'est une raison. On va entourer le « i ». Je l'entoure. Et puis, ce n'est pas la seule raison. Il y a aussi un « i » avant. Et ce sont des lettres rouges. Qui se souvient comment on appelle les lettres rouges? Elles ont un nom, les lettres rouges. Ah, vous ne vous souvenez pas, là. Je vais vous le rappeler. Ce sont des voyelles. Alors, quand on en voit une devant et une derrière, le « ce » devient « ze ». Vous allez lire ensemble ce mot-là.
Du plaisir.
Là, voilà, on entend bien « ze » ici. Voilà, je voudrais maintenant qu'on me lise ce que je viens d'écrire. Là, je ne le dis pas, c'est vous qui le trouvez. Voyons, Bruno.
Il pense.
Il pense. Alors, il y a encore là-dedans une lettre. Toujours la même. Laquelle, Marboché? Le voilà, on va le souligner de trait, celui-là. Pourquoi?
Parce qu'il fait S.
Il fait ça, celui-là. Il y a là, Marc Prigent. On va observer ce qui se passe devant et ce qui se passe derrière. Hein? Que se passe-t-il devant et derrière? Où est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche pas?
Ça marche.
Où? Devant ou derrière? Regarde bien la lettre.
Derrière.
Pourquoi ça marche derrière?
Devant, je veux
dire. Ah?
Parce que ça, c'est pas une voyelle.
C'est pas une voyelle?
C'est pluriel.
Ah, alors ici, ça ne marche pas. Et ici, est-ce que ça va?
Ça marche.
Ici, ça irait. Et de l'autre côté, ça ne va pas. Hein, regarde bien ici. Ça ne va pas de l'autre côté. Alors, on laisse ce. Ça ne fait plus ce. Autre chose maintenant. Regardez bien. J'ai encore un mot à écrire. Pierrot ira au mois de septembre en classe. J'écris en classe. Il ira en classe. Alors là, je n'ai pas écrit en classe. Il faudrait que quelqu'un me lise ce que je viens d'écrire. Je souligne la lettre importante. Voilà. Eh bien...
En classe.
Non, seul. Non, non, non. Tu crois que j'ai écrit en classe, mais tu n'as pas bien observé. Il y a quelque chose qui ne va pas. Philippe Granvaux.
Il manque un S.
Oui, mais je voudrais que tu lises d'abord ce que ça fait. Regarde bien. Parfaitement, parfaitement. Viens ici, comme tu l'as trouvé. Viens, approche. Peux-tu regarder ce qu'il y a devant, ce S?
A.
C'est bon, hein? A. Et derrière?
Il y a un.
C'est bon aussi. Si jamais je laisse comme ça, ça ne fera pas ce. Qu'est-ce que ça fera, les autres?
Ze.
Ah, alors il doit y avoir un moyen de faire ce. Lequel? Alain?
Oh, il faut mettre un S derrière le S qui est derrière.
Ça en fera combien?
Deux S.
Oui, voilà. Voilà le moyen de faire ce entre deux voyelles. Bon, maintenant tu retournes là-bas. On va lire un peu plus rapidement. Attention.
Il pense en classe.
Bon.
Quelle que soit la méthode, d'ailleurs, on ne peut pas apprendre trop jeune à lire. C'est un des grands progrès qui ont été faits en la matière, d'avoir bien montré que pour lire, il est nécessaire d'une certaine maturité mentale et d'une maîtrise en particulier de la structure spatiale et des rythmes. Ce sont les travaux, par exemple, d'Inizan, psychologue scolaire, et qui ont prouvé qu'il y avait un âge pour apprendre à lire, et que si l'on introduit la lecture trop tôt, ou si l'on va trop vite, on malmène les enfants et on ne parvient pas, en somme, à leur faire maîtriser valablement cette technique. Les partisans de la méthode globale se sont appuyés sur des travaux de psychologie qui, par la suite d'ailleurs, ont été contestés. Et cette idée de l'appréhension globale des formes, s'appuyant d'une certaine mesure sur la psychologie de la forme, qui elle n'est pas contestable ni contestée, mais enfin en matière de lecture, on a pu, par certains côtés, contester cette approche purement globale de la lecture. Le lecteur expérimenté lit effectivement de façon globale, c'est-à-dire que l'œil se déplace de gauche à droite de façon rythmique, enfin, on peut le constater dans un miroir, 3, 4 s'imposent selon le lecteur, et il est éprouvé par la tachistoscopie que le sujet n'appréhende que des groupes de lettres et pas le mot tout entier. Enfin, il devine, il reconstitue spontanément le mot. Donc ça, c'est une vérité démontrée. Au moment de l'apprentissage, évidemment, il n'en est pas ainsi. Au moment de l'apprentissage, il est nécessaire d'entraîner l'enfant, d'ailleurs, à aller de gauche à droite, ce qui n'est pas naturel. Une fois qu'il est arrivé au bout de la ligne, de revenir à gauche, etc. Et il faut également l'apprendre à dominer, justement, cette structuration spatiale de la page par une méthode qui, par certains côtés, doit toujours être synthétique, c'est-à-dire doit en venir au détail. Cependant, la méthode globale a eu également un avantage qu'on ne peut lui contester, c'est de donner une signification à ce qui est lu. Ce que l'on a reproché et ce que l'on peut reprocher à la méthode synthétique pure, c'est son caractère purement artificiel. Or, lire, c'est puiser un sens, c'est vouloir trouver une signification. Et apprendre à lire par une méthode purement synthétique, cela peut être chez un enfant le dégoûter à jamais de la lecture parce que la lui présenter sous une forme purement mécanique et sans aucun contenu de sens. Alors que par la méthode globale, on aborde des textes qui présentent pour lui un sens, qu'il veut lire, et par conséquent on lui donne l'envie de continuer à lire ensuite, car ce sera le gros problème lorsque les mécanismes ont été montés.
Ce goût profond de la lecture, sans lequel on ne saurait parler de culture véritable. D'aucuns pensent que la méthode globale est la plus apte à le faire acquérir aux enfants. Mais écoutons plutôt Robert Glotton, inspecteur départemental de la Seine, que nous avons rencontré dans une classe expérimentale, rue de Vitruve.
Dans cette classe, les jeunes enfants du cours préparatoire apprennent à lire par la méthode globale. Il faut dire tout de suite que nos objectifs ne sont pas identiquement les mêmes que dans les autres écoles quant au but à atteindre. Ce que nous voulons, c'est que les élèves apprennent à lire ce qui s'appelle savoir lire véritablement, qui est tout autre chose que déchiffrer un message écrit, mais en même temps le comprendre, le goûter, pouvoir avoir un jugement personnel sur ce qu'on vient de lire. Et pour cela, nous avons pensé que la méthode globale qui part de la compréhension du texte et qui part en même temps de la fonction de globalisation qui est active chez l'enfant à cet âge-là, était celle qui convenait le mieux. Je dois dire également que nous ne sommes pas pressés. Nous ne recherchons pas que les enfants apprennent à lire en 3 mois ou en 4 mois. Selon une méthode fonctionnelle, chaque enfant doit travailler à son rythme, et il nous suffit que les élèves, que tous sachent lire, mais bien lire, au bout de 3 mois, ou de 6 mois, ou d'un an et demi, ça n'a pas d'importance. Le tout, c'est le résultat qui compte, et surtout la manière dont ce résultat a été acquis.
En fait, on peut penser que le choix de la méthode de lecture est moins important, finalement, que la manière de l'appliquer. Et qu'en ce domaine, le discernement, le flair du maître, son instinct pédagogique, le guideront plus sûrement que tout principe théorique. La personnalité de l'enfant, son âge surtout, sont ici des éléments déterminants. Louis le Grand.
On parle beaucoup de l'apprentissage de la lecture, au cours préparatoire, en grande section de maternelle. On parle moins de ce qui suit. Or, c'est ce qui suit qui est le plus important. Et beaucoup d'élèves sortent du cours préparatoire en sachant lire à ce niveau, c'est-à-dire en sachant déchiffrer, et qui, au niveau du cours moyen, c'est-à-dire 3 ans ou 2 ans plus tard, ne sauront pas lire, c'est-à-dire auront de grandes difficultés parce qu'ils n'auront pas acquis cette rapidité lectrice, cette maîtrise du mécanisme, sans laquelle il n'y a pas saisi du sens. Dans une classe de 35 élèves, lors d'une séance de lecture, bienheureux l'élève qui lit une minute, n'est-ce pas ? À haute voix. Et parce qu'il faut que tous les élèves lisent. Et il est donc indispensable d'envisager, à côté justement de cette lecture à haute voix, des lectures silencieuses très tôt, avec des exercices qui conduisent l'élève à lire et à faire comprendre qu'il a lu. C'est la densité des lectures, leur fréquence, leur motivation aussi, et qui, au cours des années de cours élémentaire et de cours moyen, c'est-à-dire pratiquement au cours de la deuxième, troisième, quatrième et cinquième année scolaire primaire, vont permettre d'atteindre cette possibilité et cette aisance, ou de ne pas l'atteindre d'ailleurs, ce qui est le cas quelquefois, enfin qui malheureusement est assez fréquent. On a pu faire des mesures en la matière, n'est-ce pas ? Il y a eu certainement actuellement une déperdition de l'activité lectrice et des possibilités. Il y a un retard, je crois, enfin j'ai fait des études à ce sujet. Évidemment, elles sont particulières et il faudrait pouvoir les reprendre sur d'autres populations scolaires. Enfin, la population sur laquelle j'avais fait passer un test de 1910 ou 1920, le test de Beauvais, le même test passé à des enfants d'il y a 4 ans, n'est-ce pas, accusait un retard d'un an sur une population de 100 élèves, enfin un peu plus de 100 élèves. C'est-à-dire qu'au fond, il y a le fait, non pas que ces élèves ne savaient pas lire au sens du déchiffrage, car je les ai tous passés les uns après les autres, j'ai découvert un certain nombre de dyslexiques, mais très peu nombreux, mais il y a surtout ce fait qu'ils n'avaient pas atteint la rapidité qu'avaient atteint leurs condisciples d'il y a maintenant 40 ans.
Il n'est pas douteux, en effet, que l'acquisition élémentaire des mécanismes de lecture reste sans fruit quand elle n'est pas suivie d'un entraînement régulier et constant à la lecture courante, qui renforce ces mécanismes et les rend automatiques, c'est-à-dire invisibles. Rien de plus pénible, de plus affligeant que ces lecteurs inachevés qu'on voit tout empêtrés dans le physique de la lecture, si l'on peut dire. On connaît l'anecdote, vraie ou fausse, rapportée par Alain. Un homme, dans le train, lit son journal à haute voix. Un de ses compagnons de voyage, lui ayant demandé « Qu'y a-t-il dans le journal ?» Il répond « Je ne sais pas, je lis. » Boutade peut-être, mais nous avons tous rencontré de ces lecteurs qui se trouvent en quelque sorte avalés par le mécanisme. Et difficulté à lire, c'est difficulté à s'exprimer, difficulté à vivre. Tout se tient. Écoutons la confidence émouvante de ce maçon de Roex, petit village en Vaucluse, qui n'a jamais connu que les premiers degrés de la lecture et de la vie.
Je vous dirais que je suis été à l'école très peu, parce que mes parents étaient des pauvres petits paysans, et arrivé de l'école, je devais aller travailler à la terre. Alors, très peu de temps pour lire, bien entendu. Alors, ma foi, j'ai jamais eu l'occasion de bien étudier, et surtout. Alors, le peu que je peux lire, ce sont surtout des livres assez simple, enfin, je veux dire, des romans, des trucs assez compliqués pour moi, parce que sinon j'arriverai pas à trop me défendre dessus.
Et est-ce que vous avez du mal à lire, alors, vite ?
Ah, assez vite, oui. Ça, je dois dire que j'ai assez de mal à lire assez vite, hein. Je dois surtout bien réfléchir à ce que je lis, parce que j'ai des mots que j'arrive à comprendre assez difficilement.
Est-ce que vous regrettez de ne pas pouvoir lire mieux, plus vite
Bien sûr que je regrette. Parce que j'aurais voulu essayer d'apprendre plus, mais toujours l'histoire du temps qui manque. Surtout ça. Et puis quand on est né d'une famille assez pauvre, bien, on fait comme on peut, hein, on se débrouille de vivre comme on peut. Ça, c'est ce que vous voulez faire. C'est bien plus malheureux pour moi.
Savoir lire, c'est-à-dire savoir déchiffrer l'ensemble de signes conventionnels qui composent un texte écrit ou imprimé, et le transformer en langage intelligible ne suffit pas pour faire un lecteur. Le lecteur véritable est celui qui a une telle habitude de la lecture qu'il oublie qu'il est en train de lire pour ne plus s'attacher qu'à ce qu'il lit. Robert Glotton, pourriez-vous nous décrire la suite d'étapes intellectuelles qui mènent de la lecture laborieuse, mot à mot, à cet automatisme du déchiffrement qui caractérise le lecteur accompli?
Vous savez que la lecture est un acte extrêmement complexe. Et vous venez de le dire vous-même en parlant d'apprentissage laborieux. Si c'est un acte complexe, je crois que c'est parce qu'il comprend un double symbolisme. Double symbolisme. En effet, dans l'acte de lecture, ce que nous faisons d'abord, c'est de traduire des signes graphiques en signes auditifs. Et c'est le premier travail que l'on va demander à l'enfant. Il voit écrit un dessin bizarre, qui est un B, puis un A, et il va le traduire par le son BA. Ce premier symbolisme va s'accompagner d'un second, qui lui donne sa signification. C'est qu'il va falloir traduire ces signes sonores, qui sont ceux du langage parlé, en un sens. Il va falloir leur donner une signification. Ou plutôt, il va falloir retrouver la signification que leur donnait le langage parlé. Si bien que ce double symbolisme nous fait parcourir trois étapes. La prise de conscience d'un code graphique, sa traduction en un code sonore, et la traduction de ce code sonore en une signification. Ce sont les étapes, je dirais, théoriques de l'acquisition de l'outil de la lecture. Mais celui qui devrait constamment passer par ce double symbolisme ne saurait pas lire. Il saurait déchiffrer le code dont je parlais tout à l'heure. Il saurait péniblement, peut-être, essayer d'en faire la traduction, mais il ne saurait pas lire. Parce qu'on sait lire au moment où ce double symbolisme s'est réduit, à mon sens, en un symbolisme unique. Et c'est-à-dire où l'esprit n'a plus besoin de passer par le soutien sonore pour déchiffrer le message graphique, et où il va passer directement du signe graphique à son interprétation idéologique, à l'interprétation du sens. Et on sait lire quand ce symbolisme unique est devenu automatique. Malheureusement, tous les individus ne parviennent pas à cette maîtrise de l'instrument qu'ils ont acquis à l'école. Je suis persuadé qu'il y a des gens qui sont restés au niveau du déchiffrage, c'est-à-dire du premier symbolisme. Ce sont ces gens qui lisent, comme disait Alain, qui lisent comme on bêche, péniblement en associant des syllabes aux syllabes, et qui ont ensuite un grand effort à faire pour faire la synthèse de ces syllabes, de ces sons, pour évoquer une idée. Ceux-là ne savent pas lire. Et ce que je crois, malheureusement, c'est que je crois qu'il y a un bon nombre de nos contemporains qui sont à ce stade et qui, n'ayant pas maîtrisé la lecture, n'ont pas le goût de la lecture parce qu'ils ont du mal à lire. Et dans notre civilisation de l'image, il y a tant d'occasions d'échapper à cet effort de la lecture par des moyens plus passifs, peut-être, d'imprégnation, que un grand nombre de personnes ne lisent pas. Et à ce propos, je me demande si, à l'école, je ne parle pas des méthodes d'apprentissage qui posent des problèmes. Il est certain que l'enfant qui a appris par une méthode globale, qui a d'abord été mis en présence d'une devinette à signification positive, et qui va avoir pris cette posture initiale, je dirais, de vouloir déchiffrer cette devinette pour voir derrière le sens qu'elle recouvre. Cet enfant, par rapport au précédent, se trouve dans une position intellectuelle tout à fait différente. Il est immédiatement mis, je dirais, dans la fonction de la lecture. Je crois que, de ce point de vue, de la méthode d'apprentissage, va dépendre en grande partie de savoir si l'enfant aura le goût ou n'aura pas le goût de la lecture. Mais après cet apprentissage vient un entraînement à la lecture courante, lecture rapide, un entraînement à la maîtrise de l'instrument dont nous parlions tout à l'heure pour arriver à la lecture automatique. Et je me demande si l'importance qu'on donne à la lecture à haute voix n'est pas une des causes des échecs en lecture. Et du point de vue psychologique, on s'aperçoit de ceci, c'est que l'acte physiologique dans la lecture n'est pas le même s'il s'agit de lecture silencieuse ou s'il s'agit de lecture à haute voix. Dans la lecture silencieuse, qui est la véritable fonction de la lecture, on sait très bien comment se déplace le regard lisant une ligne. Le regard ne déchiffre pas toutes les syllabes les unes après les autres, mais le regard se déplace par sauts, plus ou moins rapides, et englobant une plus ou moins grande surface. On sait qu'un enfant, par exemple, à 6 ans, quand il commence à lire, sur une ligne, il va faire 15 sauts, alors que à 10 ans ou à 11 ans, il va faire simplement 7 ou 8 sauts dans une ligne. Sauts au cours desquels il va percevoir globalement l'ensemble significatif. Ce qui est curieux, c'est qu'on sait qu'à partir de 10 ans, la lecture ne s'améliore plus à ce titre, et que les statistiques montrent que chez les adultes, si on était à 7 à 8 sauts à 10 ans, on est toujours à 7 à 8 sauts à 30 ou à 40 ans. Ça ne s'améliore. Or, on sait, les Américains nous ont montré, par exemple, dans leur technique de lecture cursive, de lecture rapide, nous ont montré qu'on peut très bien amener le lecteur à simplement 2 ou 3 pauses dans le courant d'une ligne. Donc, il y a quand même un progrès qui est possible par des techniques spéciales. Eh bien, dans la lecture à haute voix, on n'apprend pas à l'enfant à lire par saut. Pour que l'enfant lise à haute voix, il faut qu'il lise, il est pris dans l'écoulement du temps, il faut qu'il lise syllabe après syllabe, même s'il va lire avec une lecture naturelle, qu'il ne fait plus syllaber, il faut quand même qu'il déchiffre. Si bien que le mouvement des yeux et le mouvement de la parole ne sont jamais associés, ils ne sont jamais coordonnés ni synchronisés. Si bien que l'enfant qui apprend à lire à haute voix ne se prépare nullement à ce travail de l'œil qui se déplace de pause en pause. Et si bien que lorsqu'il a quitté l'entraînement de l'école et qu'il va lire pour son propre compte, il est à craindre qu'ayant appris à lire uniquement par lecture à haute voix, qu'il ne sache pas faire ses pauses et qu'il le lise, comme disait Alain, je le répète, comme on bêche, c'est-à-dire de motte en motte, de syllabe en syllabe. Il ne saura jamais lire celui-là. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas employer la lecture à haute voix, elle est indispensable. Est indispensable en ce sens, d'une part, que notre écriture étant phonétique, vous avez tout le système articulatoire qui joue et qui aide beaucoup l'enfant pour acquérir le mécanisme de la lecture. Donc, à ce titre, la lecture à haute voix, elle me paraît indispensable. D'autre part, les progrès en lecture doivent être contrôlés. Et il est bien certain qu'il est plus facile de contrôler la lecture dans un exercice de lecture à haute voix que dans un exercice de lecture silencieuse. Pour la lecture silencieuse, il y faut des procédés spéciaux, il y faut des techniques qui existent, mais qui sont moins connues et qui sont moins en usage. Alors, il ne s'agit pas de rejeter la lecture à haute voix, mais je crois de lui faire sa place, et sa place qui devrait être très limitée, à mon sens, au bénéfice de l'autre.
Au terme de cette première étape sur la route qui mène de l'homme au livre, on ne saurait mieux conclure qu'en citant la belle parole de Peggy. Enseigner à lire, telle serait la seule et véritable fin d'un enseignement bien entendu. Que le lecteur sache lire, et tout est sauvé.
Quinzaine de la lecture, quinzaine des lecteurs. C'était une enquête de Luc Decaune. Ce soir, comment on devient lecteur? Avec la participation de Julien Green, Jean Villard, François Bresson, Louis Legrand, Robert Gloton et du cours préparatoire de la rue Pelleport à Paris. Documents recueillis avec le concours de Colette Godard et Claudine Balta. Assistant Claude Casetsu. Réalisateur Bernard Saxel.
Cette émission a été diffusée la première fois le 27 novembre 1967 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.